loin, si proche, Découverte, le magazine des voyages.
Ludovic Duno, Olga Samsonov.
Bonjour et bonne année à tous. Le nouveau livre d'Olivier Folmy s'appelle Le bal de l'univers. Comme d'habitude, il paraît aux éditions de La Martinière et il nous emmène cette fois-ci en Islande. Voilà une nouvelle virée pour ce photographe voyageur. C'est comme ça qu'Olivier Folmy se définit, photographe et voyageur. Depuis plus de 30 ans, il parcourt la Terre. Ses photos et reportages du monde himalayen lui ont valu les plus hautes distinctions du milieu photographique. Mais sa soif de rencontre l'a aussi mené sur d'autres continents. Aujourd'hui, Olivier Folmy est aussi connu pour ses clichés harmonieux, paisible, montrant la sagesse des hommes, leur souffle fraternel, positif. Il est, par exemple, l'auteur, avec sa femme Danielle, d'une série de livres illustrés qui s'appelle « Sagesse de l'humanité », sagesse au pluriel, où ils explorent les patrimoines philosophiques et spirituels. Il ne cherche donc pas à témoigner de la violence du monde. Ce grand photographe travaille à contre-pied de ses confrères et des images qui inondent la planète. Les succès des livres d'Olivier Folmy seraient-ils là pour démontrer qu'on a besoin, peut-être plus qu'avant, de savoir qu'on a aussi une âme pacifique, généreuse, qu'on peut être en paix. En tout cas, ce grand voyageur est de passage à Paris et il se pose pendant une heure dans notre studio. Bonjour Olivier Folmy.
Bonjour Ludovic.
Alors, votre envie insatiable de voyage vous a poussé récemment en Islande. Vous avez voulu aller là où la terre qui nous accueille, nous les hommes, s'exprime à l'état brut. C'est un peu violent comme voyage, c'est ce qu'on découvre à la fin du livre. Vous avez écrit un texte qui raconte une partie de votre séjour en Islande. Presque un cauchemar.
Ah non, 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 quand même pas.
C'est quand même, les éléments vous agressent, vous avez peur.
Oui.
On n'a pas tout à fait l'habitude de ça avec vous. D'habitude, c'est beaucoup plus serein.
Oui, bien sûr. Mais déjà, je suis pas allé vers le cauchemar. Je suis allé en Islande pour écrire. Donc j'y allais dans un état d'esprit quand même de quiétude. J'avais besoin de m'isoler, de partir un peu dans les confins du monde pour être dans des caps isolés. Et en fait, non, j'ai été bouleversé par la lumière, par la beauté du paysage. Alors, il est vrai que c'est effrayant parfois, l'Islande, parce qu'on est dans la nature brute, hein, où tout vous saute à la figure. Hein, le vent, le feu sous les pieds, la mer rugissante contre la grève. On n'a pas l'habitude de ça. Quand on est ici, à Paris, dans sa maison, on ne sait pas qu'il y a ça qui se passe sous la terre, dans l'univers. Et l'Islande, eh bien, ça vous saute à la figure, qu'on fait partie de quelque chose d'une dimension incroyablement insaisissable, et ça fait peur. Et en ça, c'est effrayant l'Islande, c'est que ça nous met en face d'une réalité effrayante, c'est qu'on n'est rien du tout.
C'est ce qu'on découvre dans Le bal de l'univers, donc votre dernier livre qui vient de paraître aux éditions La Martinière. Et c'est vrai qu'en pleine page, des photos sont cadrées. Je veux pas dire qu'elles sont cadrées assez serrées, parce que généralement, il y en a qui épousent l'horizon. Mais malgré tout, à chaque fois, il y a un rapport où, effectivement, comme vous le dites, on se prend les éléments en pleine figure.
Oui, et moi j'aime ça, j'ai aimé ça en Himalaya, et je suis allé en Islande pour cela, justement, pour me reconnecter à l'essentiel. Donc j'avais choisi l'Islande pour cette dimension cosmique. Alors bien sûr que c'est effrayant l'Islande, parce que vous avez des volcans, vous avez des tremblements de terre, vous avez... Tout est violent en Islande. Mais j'aime cette violence, parce que c'est la réalité de l'univers.
Vous écrivez, je suis abandonné dans l'univers, je ne sers à rien.
Non, on ne sert à rien, non. C'est, en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié en Islande, c'est que j'avais repéré un cap qui était au nord-ouest de l'Islande, à 300 km de là où j'étais. Bon, j'ai pris une route de 100 km, après une piste en terre battue de 100 km, et après il y avait une piste 4x4 de 20 km pour arriver jusqu'à ce cap. J'étais en fourgon aménagé, donc c'était pas un 4x4, mais bon, je me dis, on verra bien, il faut bien tenter. Et en fait, cette piste 4x4 de 20 km, elle longeait une coulée de lave, alors je l'ai faite très tranquillement, à 4 km/h, mais c'était austère, parce qu'elle longeait une coulée de lave pétrifiée, qui était plus haute que mon fourgon, qui avait 500-600 ans. Mais vous savez, la lave, ça calcine tout, il n'y a plus rien, ça pompe toute l'énergie. Et je suis arrivé finalement au bout du cap, alors cette coulée de lave, elle s'échouait un peu comme une langue de baleine au bout du cap, elle n'allait pas jusqu'à la mer, il y avait encore une petite frange de terre, et là il y avait un phare. Il appelait au secours ce phare, il n'y avait personne, c'était un phare automatique, et j'avais l'impression qu'il balayait l'inutile à essayer d'appeler au secours au Canada, au pôle Nord là-bas. J'arrivais au bout du monde, il y avait des marmites bouillonnantes, qui étaient en train de bouillonner un peu à droite à gauche, les vagues qui explosaient contre la grève. Le vent qui ballottait mon fourgon, j'avais l'impression qu'il rugissait de l'univers, ce vent. J'étais vraiment au cœur des éléments. Il y avait trop d'énergie pour moi, j'étais pas à l'aise, c'était trop puissant pour moi. Et je me dis non, je passe pas la nuit là, en plus avec ce fichu phare, c'est ce phare qui me fichait le cafard quelque part. Il y aurait eu un homme dedans, je serais allé boire un canon avec lui, on aurait discuté, je me serais senti parmi les miens. J'ai voulu repartir, j'allumais les phares, quand on commençait à balayer ces fumerolles, ah, je reconnais, j'avais la trouille. Je me dis, moi, je conduis pas 5 heures sur cette piste de terre à côté de la lave pendant la nuit. J'ai tout éteint, je me suis glissé sous la couette. Et j'ai commencé à lire Hubert Reeves. Hubert Reeves, qui est cet astrophysicien qui a l'art de nous faire prendre conscience des dimensions de l'univers, de l'infini. Que derrière l'infini, il y a encore des infinis. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que j'étais au cœur de l'univers, là où j'étais. J'avais devant moi tout ce qui constituait l'univers. Et que finalement, cette Islande, c'était sur cette terre une partie de l'univers qui était là, à cœur ouvert. Et j'ai eu envie de photographier cette Islande comme je la comprenais à travers les livres d'Hubert Reeves. Et c'est pour ça qu'il y a ce livre du bal de l'univers.
C'est pour ça que dans ce livre, l'angle qui vient de sortir, il y a d'un côté une photo en pleine page et de l'autre côté, sur fond blanc, des extraits de textes signés Hubert Reeves, donc cet astrophysicien canadien.
Tout à fait, franco-canadien.
Québécois, ouais. Exactement. Mmh. Malgré tout, vous nous avez emmenés en voyage et vous nous emmenez en voyage à travers vos photos et vos livres depuis 30 ans. À la rencontre surtout des hommes,
oui.
À la rencontre de la lumière qui pétille dans le regard des hommes, mmh. À la rencontre d'une certaine harmonie du monde, alors que la Terre en ce moment va pas très bien avec la pollution, la violence, etc. On se demande ce que sera notre futur. Et là, dans ce dernier opus, il y a pratiquement pas d'hommes. Quand il y a un homme, il est seul et il est écrasé par la nature. Quand ils sont trois, ils sont en petite ombre chinoise, presque comme une calligraphie sur le sommet d'une crête, perdue dans un univers hostile. On a l'impression que ce que vous êtes allé rencontrer là, c'est une nouvelle personne, celle qui nous accueille, qui est la Terre, et qui n'est pas franchement toujours sympa.
La Terre, elle est sympa, c'est l'homme qui n'est pas sympa avec la Terre. La Terre, elle vit sa vie dans cet univers. Et encore, je crois que si la Terre disparaissait, ça ne changerait rien à l'univers. Donc finalement, si l'homme disparaissait sur cette Terre, ça ne changerait absolument rien non plus.
Hubert Reeves dit, de toute façon, si nous on disparaît les hommes, ça sera une anecdote. Il dit, la nature ne versera même pas une larme pour nous.
Ah non, 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 ça c'est sûr. Nous, on pourrait verser des larmes pour nos enfants et nos petits-enfants qui nous traiteront sûrement de criminels par rapport au manque de conscience qu'on a du futur. J'y suis allé pour écrire, pas du tout pour photographier en Islande. J'allais là-bas pour m'inspirer. J'ai eu envie de témoigner de ce que je vivais, ce que je ressentais. Moi, je ne pars pas dans un but opportuniste, non. Par contre, à un moment donné, il est important pour moi de donner un sens à tout ce que j'ai pu vivre, donc j'ai aussi le devoir de le partager. Et c'est dans cet esprit-là que je fais mon travail.
C'est presque un voyage initiatique que vous avez fait. On va revenir dans quelques minutes sur votre parcours, sur votre attachement aux croyances et aux foi asiatiques. D'ailleurs, le livre est construit un peu comme un livre bouddhiste ou un livre hindouiste. Il y a trois parties très claires qui sont création, destruction et renaissance.
Oui.
Et on a vraiment l'impression d'entendre là des cycles racontant la vie des dieux asiatiques ou comment effectivement ces peuples que vous connaissez bien et ces sociétés que vous connaissez bien dans l'Himalaya ou ailleurs en Asie, en Birmanie ou ailleurs, envisagent le monde. On vous retrouve, je ne vais pas dire que c'est un livre bilan, vous êtes loin de faire votre bilan, Olivier, mais malgré tout, on retrouve plein de choses de vous, même si c'est loin de vos terres d'élection.
C'est normal, on grandit façonné par la vie qui est derrière, donc je ne suis que l'héritage de mon passé.
C'est un livre politique aussi, vous avez envie de laisser des choses, de dire aux hommes, faites attention à cette planète, effectivement, elle peut se débrouiller sans nous, regardez, elle est puissante, elle est énorme, nous on n'est rien dedans, faites attention.
Oui, bien sûr, ce n'est pas qu'un livre de jouissance où je partage simplement un moment d'émotion à me sentir impliqué dans cet univers. C'est aussi une prise de conscience que, et c'est ce que j'ai aimé à travers le travail d'Hubert Reeves, ce qui est ses paroles, c'est de faire prendre conscience justement de l'insignifiance de l'homme et qu'il faut arrêter de dire sauvons la planète. C'est pas la planète qu'il faut sauver, elle s'en fout la planète. Si on la détruit complètement, dans 2 millions d'années, tout ça va revenir. Je l'ai bien vu sur ces coulées de lave. Calciné depuis 600 ans, ça tue tout. Et quand même, il y a de la mousse qui revient.
Mais elle est magnifique cette photo dont vous parlez. C'est une mousse d'un vert presque fluorescent, étincelant au milieu du noir.
Tout à fait.
Qui sillonne comme ça au milieu des ténèbres.
Oui, c'est ce contraste justement et c'est cette beauté de l'Islande où tout est à fleur de peau. Vous comprenez, tout est facile à décrypter. Ces contrastes sautent aux yeux et ces évidences sautent aux yeux aussi. C'est ça que j'ai aimé en Islande. Donc j'ai voulu bien sûr aussi faire partager mon sentiment que ce n'était pas la planète à sauver, c'était l'homme à sauver.
Néo-zélandaise sur la radio mondiale, c'était Lady Six. Olivier Folmy, photographe, voyageur, est à RFI. Aujourd'hui, ses clichés sont connus et appréciés dans le monde entier. Un grand nom de la photo est donc parmi nous aujourd'hui. On va en profiter, Olivier, pour remonter le cours de votre vie, peut-être faire partager votre carrière et votre existence à ceux qui vous connaissent encore pas bien. Vous avez quitté vos Alpes natales à l'adolescence pour aller voir le vaste monde. Et vous qui êtes des montagnes, la première approche du vaste monde, c'était d'autres montagnes encore plus hautes, encore plus grandes, qui étaient le monde himalayen. Dès 17 ans, vous êtes parti.
Oui, j'ai eu la chance déjà d'avoir des parents qui me laissent libre. J'ai pris des risques adolescents, mais ils ont eu cette confiance dans la vie. Ce qui m'a permis de m'épanouir, et puis de franchir quelque part des étapes à temps. Il est important d'avoir des rites initiatiques, ça je l'ai appris en Afrique, où l'enfant doit partir dans la forêt, il revient, il est considéré comme adulte. En fait, c'est ce passage initiatique. Et moi, je les ai eus, mes passages initiatiques, en montagne, où j'étais grimpeur sur les parois.
Ça, c'était en France, dans les Alpes.
Ça, c'était en France. Donc j'ai pu partir très jeune, en fait, partir en Afghanistan. Là, j'ai pu faire une ascension avec des amis, un sommet qui était à 6000 mètres. Et l'Afghanistan a été mon facteur déclencheur dans toute ma vie de photographe. J'étais fasciné par ce pays, c'était avant la guerre. Je voulais connaître ce monde afghan. Donc j'avais décidé de partir plus tôt, voler sur Kaboul et traverser la piste du centre comme je pouvais, à pied, en camion, en cheval. Bon, et arrivé à Kaboul, je suis allé chercher un turban. Je voulais m'habiller comme un Afghan, je voulais pas être à l'occidental. J'ai trouvé une échoppe de turbans, donc le marchand était tranquille, assis sur son kilim, en train de boire son thé. J'ai choisi un turban et je suis venu vers lui et je lui ai demandé ce turban combien il coûte. Et cet homme, il m'a regardé, il m'a dit « mais je te le vends pas ». Moi j'avais 17 ans, je comprenais rien, pourquoi il me le vend pas ? Il me dit « mais tu me l'as pas marchandé, tu t'es pas assis, on n'a pas parlé ». Et là je me suis senti petit, j'ai compris que j'avais une pensée, une vérité de ma culture, mais qu'il y avait d'autres pensées, d'autres vérités. Je me suis assis, bien sûr, on a discuté tranquillement, on a bu le thé, finalement j'ai marchandé. Le but de cet homme n'était pas à tout prix de faire des affaires, il se servait de son commerce pour communiquer. Et en fait, il a posé toutes les bases de mon travail photographique, parce que moi aussi je me sers de la photographie pour communiquer. Je ne vais vers l'autre que pour me relier à l'autre. Donc je lui dois beaucoup à cet homme.
Alors au début, vous partez en Afghanistan, après ce sera le monde himalayen, aux Zanskars, dans les hautes vallées himalayennes, au Népal, dans toute cette région centrale des où vous frôlez les plus grandes cimes, ou en tout cas vous les voyez de loin, parce que vous restez plutôt dans les vallées,
non,
même si
fait,
vous faites des ascensions.
Non, j'ai fait des ascensions, 7-8 000, mais j'en suis revenu, j'en ai fait 8 ou 9, mais j'ai compris que c'est les hommes dans les montagnes qui m'intéressent. Vous savez, j'ai pensé que plus j'allais en altitude, et plus j'allais me rapprocher des dieux. Et en fait, pas du tout. J'ai fait mon premier grand sommet, c'était un 7006, Mustagata, en Asie centrale, un sommet somptueux à ski. Il faisait grand beau, conditions faciles, mais on était dans un brouillard de 2 mètres, alors qu'il y avait le grand ciel bleu au-dessus. Ce qui nous a épuisés, parce que 7006 c'est haut quand même. On est arrivé en haut, on était 4, on ne pensait plus qu'à faire un pas, une respiration, un pas, une respiration. J'étais très loin des dieux à ce moment-là.
Réussir l'exploit.
Ah oui, il fallait transcender ce corps, enfin arriver quoi, donc l'esprit n'avait plus de place. Mais ce qui m'a fait peur en fait, c'est qu'arrivé là-haut, au sommet, on était épuisé. Et je me dis, si un de nous a un malaise ou se tord une cheville, on n'a que deux choix, soit le laisser et il meurt tout seul, soit rester avec lui et mourir avec lui. Mais aucun de nous n'était capable de le transporter. Et là, j'ai pas trouvé intéressant de se mettre dans des conditions à être en face d'une telle réalité. Donc, j'ai compris les limites de la très haute montagne. C'était un challenge physique, un défi. Petit à petit, j'en ai moins besoin. Et en fait, quand j'ai retrouvé le monde des hommes, les villages, j'ai retrouvé l'herbe, la fumée qui sort des cheminées, l'aboiement d'un chien, le cri d'un âne, la voix d'une femme, j'ai eu les larmes dans les yeux. Et j'ai compris que mon monde était auprès des hommes.
C'est ce que j'allais souligner. Vous êtes parti voir des montagnes et affronter la nature en majesté. Mais ce sont les hommes que vous avez rencontrés. Donc vous avez préféré après les fonds de vallée. Et pendant 15 ans, vous nous avez montré ça. Dans vos livres, vous avez obtenu des prix internationaux prestigieux. Pour justement cet intérêt que vous avez porté à ces peuples de l'Himalaya.
J'ai été fasciné par le monde himalayen. Il avait tout ce que j'aimais. La beauté de la nature, la culture. Vous savez, j'ai abordé le monde bouddhiste himalayen à 18 ans. J'étais en pleine quête. J'ai trouvé des réponses qui me convenaient là-bas. Et le bouddhisme m'a permis de revenir à mes racines judéo-chrétiennes. Et donc, j'avais un monde de nature, j'avais une culture qui me touchait. Et surtout, pour aller dans cette nature, auprès de ces hommes, il fallait faire un effort. Quand vous franchissez un col à 4500 ou 5000 mètres, vous affrontez le froid, le vent, la neige, la soif, la faim, et que vous arrivez dans un village, et que les gens sont sales, mais vous aussi vous êtes sales. Et vous comprenez que ces gens, vu de l'extérieur, soient sales. Pour vous, ils ne le sont pas. Donc, j'aimais devoir fournir un effort pour me mettre à la portée des gens et mieux les comprendre. Et eux, de leur côté, ils me considéraient pas comme l'étranger qui débarquait de son avion et qui les regardait comme des bêtes curieuses. Non, moi aussi, j'avais fourni un effort. Donc, finalement, on avait une humanité qu'on partageait ensemble, qui nous rapprochait. Et j'ai aimé arriver à pied dans ces villages de l'Himalaya, justement pour retrouver cette humanité.
Cette humanité, elle va nous suivre pendant toute cette émission avec vous. Aujourd'hui, Olivier Folmy, vous avez votre appareil photo en bandoulière. On va en reparler évidemment parce que il y a cette expérience que vous avez vécue avec ces hommes. Mais derrière, vous nous la faites partager grâce à vos photos. Donc il y a bien un moment, il va falloir qu'on fasse intervenir l'appareil photo dans votre vie et dans notre conversation. Mais on fait une petite pause de 3 minutes pour écouter les dernières nouvelles du monde, voir comment la planète est en train de bruisser en ce moment. Et on se retrouve pour la seconde partie de Si loin si proche dans 3 minutes. À tout de suite.
À tout de suite.